L'instant conte, des histoires chaque semaine sur Radio Saint-Aff.
L'instant conte, des histoires chaque semaine sur Radio Saint-Aff.
C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte. C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte.
Les Morgans de l'île d'Ouessant. Il y avait autrefois, il y a bien longtemps de cela, peut-être du temps où Saint-Paul vint du pays d'Hibernie dans notre île. Il y avait donc à Ouessant une belle jeune fille de 16 à 17 ans qui s'appelait Mona Kerbilly. Elle était si jolie que tous ceux qui la voyaient en étaient frappés d'admiration et disaient à sa mère « Vous avez là une bien belle fille, Jeanne. Elle est jolie comme une morganesse et jamais on n'a vu sa pareille dans l'île. C'est à faire croire qu'elle a pour père un Morgan. » « Ne dites pas cela, répondait la bonne femme, car Dieu sait que son père est bien Fanche Kerbilly, mon marin, tout comme je suis sa mère. » Le père de Mona était pêcheur et passait presque tout son temps en mer. Sa mère cultivait un petit coin de terre qu'elle possédait contre son habitation, ou filait du lin quand le temps était mauvais. Mona allait avec les jeunes filles de son âge à la grève chercher des briniques, des moules, des palourdes, des bigorneaux ou autres coquillages qui étaient la nourriture ordinaire de la famille. Il faut croire que les Morgans, qui étaient alors très nombreux dans l'île, l'avaient remarquée et furent eux aussi frappés de sa beauté. Un jour qu'elle était, comme d'habitude, à la grève avec ses compagnes, elle parlait de leur amoureux. Chacune vantait l'adresse du sien à prendre le poisson et à gouverner et diriger sa barque parmi les nombreux écueils dont l'île est entourée. « Tu as tort, Mona, » dit Marcarit. « Arthur, à la fille de Fanche Kerbilly de rebuter comme tu le fais. Erwan Kerdudal, c'est un beau gars, il ne boit pas, ne se querelle jamais avec ses camarades et nul mieux que lui ne sait diriger sa barque dans les passes difficiles de vieilles juments et de la pointe du Stiff. Moi, répondit Mona avec dédain, car à force de s'entendre dire qu'elle était jolie, elle était devenue vaniteuse et fière. Je ne prendrai jamais un pêcheur pour mari, je suis aussi jolie qu'une morganesse et je ne me marierai qu'avec un prince, ou pour le moins le fils d'un grand seigneur riche et puissant, ou encore avec un Morgan. Il paraît qu'un vieux Morgan, qui se cachait par là, derrière un rocher ou sous les goémons, l'entendit et, se jetant sur elle, il l'emporta au fond de l'eau. Ses compagnes coururent raconter l'aventure à sa mère, Jeanne Kerbilly, était affilée sur le pas de sa porte. Elle jeta sa quenouille et son fuseau et courut au rivage. Elle appela sa fille à haute voix et entra même dans l'eau, aussi loin qu'elle put aller, à l'endroit où Mona avait disparu. Mais ce fut en vain, et aucune voix ne répondit à ses larmes et à ses cris de désespoir. Le bruit de la disparition de Mona se répandit promptement dans l'île, et nul n'en fut bien surpris. Mona, disait-on, était la fille d'un Morgan, et c'est son père qui l'aura enlevée. Son ravisseur était le roi des Morgans de ces parages, et il avait emmené la jeune Ouessantine dans son palais qui était une merveille dont n'approchait rien de ce qu'il y a de plus beau sur la terre en fait d'habitation royale. Le vieux Morgan avait un fils, le plus beau des enfants des Morgans, et il devint amoureux de Mona et demanda à son père de la lui laisser épouser. Mais le roi, qui lui aussi avait les mêmes intentions à l'égard de la jeune fille, répondit qu'il ne consentirait jamais à lui laisser prendre pour femme une fille des hommes de la terre. Il ne manquait pas de belles Morganesettes dans son royaume, qui seraient heureuses de l'avoir pour époux, et il ne refuserait pas son consentement car il aurait fait son choix. Voilà le jeune Morgan au désespoir. Il répondit à son père qu'il ne se marierait jamais s'il ne lui était pas permis d'épouser celle qu'il aimait, Mona, la fille de la terre. Le vieux Morgan, le voyant dépérir de tristesse et de chagrin, le força de se marier avec une morganesse, fille d'un des grands de sa cour et qui était renommée pour sa beauté. Le jour des noces fut fixé et l'on invita beaucoup de monde. Les fiancés se mirent en route pour l'église suivis d'un magnifique et nombreux cortège. Car il paraît que ces hommes de mer ont aussi leur religion et leur église sous l'eau. Ils ont même des évêques, assure-t-on, et Gulven Penduff, un vieux marin de notre île qui a navigué sur toutes les mers du monde, m'a affirmé en avoir vu plus d'un. La pauvre Mona reçut ordre du vieux Morgan de rester à la maison pour préparer le repas de noces. Mais on ne lui donna pas ce qu'il fallait pour cela, rien absolument que des pots et des marmites vides, qui étaient de grandes coquilles marines. Et on dit encore que, si tout n'était pas prêt et elle ne servait pas un excellent repas, quand l'annonce reviendrait de l'église, elle serait mise à mort aussitôt. Jugée de son embarras et de sa douleur, la pauvre fille, le fiancé lui-même n'était ni moins embarrassé, ni moins désolé. Comme le cortège était en marche vers l'église, il s'écria soudain « J'ai oublié l'anneau de ma fiancée !»« Dites où il est et je le ferai prendre, » lui dit son père. « Non, non, j'y vais moi-même, car nul autre que moi ne saurait le retrouver là où je l'ai mis. J'y cours et je reviens dans un instant. » Et il partit sans permettre à personne de l'accompagner. Il se rendit tout droit à la cuisine où la pauvre Mona pleurait et se désespérait. Consolez-vous, lui dit-il. Votre repas sera prêt et cuit à point. Ayez seulement confiance en moi. » Et s'approchant du foyer, il dit « Bon feu au foyer !» Et le feu s'alluma et flamba aussitôt. Puis, touchant successivement de la main les marmites, les casseroles, les broches et les plats, il disait « De la chair de saumon dans cette marmite, de la sole aux huîtres dans cette autre, du canard à la broche par ici, des maquereaux frits par là, et des vins et liqueurs choisis et des meilleurs dans ces pots. » Et les marmites, les casseroles, les plats et les pots s'emplissaient par enchantement de mets et de liqueurs dès qu'il les touchait seulement de la main. Mona ne pouvait surmonter son étonnement de voir le repas prêt en un clin d'œil, et sans qu'elle y eût mis la main. Le jeune Morgan rejoignit alors en toute hâte le cortège et l'on se rendit à l'église. La cérémonie fut célébrée par un évêque de mer. Puis on revint au palais. Le vieux Morgan se rendit directement à la cuisine et s'adressant à Mona, « Nous voici de retour. Tout est-il prêt ?»«
Tout est prêt, » répondit Mona tranquillement.
Étonné de cette réponse, il découvrit les marmites et les casseroles, examina les plats et les pots et dit d'un air mécontent « Vous avez été aidé, mais je ne vous tiens pas pour quitte. »
On se mit à table, on mangea et on but abondamment. Puis les chants et les danses continuèrent toute la nuit.
Vers minuit, les nouveaux mariés se retirèrent dans leur chambre nuptiale, magnifiquement ornée, et le vieux Morgan dit à Mona de les y accompagner et d'y rester, tenant à la main un cierge allumé. Quand le cierge serait consumé jusqu'à sa main, elle devait être mise à mort. La pauvre Mona dut obéir. Le vieux Morgan se tenait dans une chambre contiguë et de temps en temps il demandait « Le cierge est-il consumé jusqu'à votre main ?»«
Pas encore, » répondait Mona.
Il répéta la question plusieurs fois. Enfin, lorsque le cierge fut presque entièrement consumé, le nouveau marié dit à son épouse « Prenez pour un moment le cierge des mains de Mona et tenez-le pendant qu'elle nous allumera du feu. » La jeune Morganesse, qui ignorait les intentions de son beau-père, prit le cierge. Le vieux Morgan répéta au même moment sa question. « Le cierge est-il consumé jusqu'à votre main ?»«
Répondez oui, » dit le jeune Morgan.
« Oui, » dit la Morganesse. Et aussitôt, le vieux Morgan entra dans la chambre, se jeta sur celle qui tenait le cierge sans la regarder et lui abattit la tête d'un coup de sabre, puis il s'en alla. Aussitôt le lever du soleil, le nouveau marié se rendit auprès de son père et lui dit « Je viens vous demander la permission de me marier, mon père. »
La permission de te marier. Ne t'es-tu donc pas marié hier ?
Oui, mais ma femme est morte, mon père.
Ta femme est morte. Tu l'as donc tuée, malheureux ?
Non, mon père, c'est vous-même qui l'avez tuée.
Moi, j'ai tué ta femme.
Oui, mon père, hier soir, n'avez-vous pas abattu d'un coup de sabre la tête de celle qui tenait un cierge allumé près de mon lit ?
Oui, la fille de la terre.
Non, mon père, c'est la jeune Morganesse que je venais d'épouser pour vous obéir et je suis déjà veuf. Si vous ne me croyez pas, il vous est facile de vous en assurer par vous-même, son corps est encore dans ma chambre. »
Le vieux Morgan courut à la chambre nuptiale et connut son erreur. Sa colère en fut grande.
« Qui veux-tu donc avoir pour femme ?» demanda-t-il à son fils quand il fut un peu apaisé.
« La fille de la terre, mon père. »
Il ne répondit pas et s'en alla. Cependant, quelques jours après, comprenant sans doute combien il était déraisonnable de s'opposer en rival de son fils auprès de la jeune fille, il lui accorda son consentement et le mariage fut célébré avec pompe et solennité. Le jeune Morgan était rempli d'attention et de prévenance pour sa femme. Il la nourrissait de petits poissons délicats qu'il prenait lui-même, lui confectionnait des ornements de perles fines et recherchait pour elle de jolis coquillages nacrés, dorés et les plantes et les fleurs marines les plus belles et les plus rares. Malgré tout cela, Mona voulait revenir sur la terre auprès de son père et de sa mère dans leur petite chaumière au bord de la mer. Son mari ne voulait pas la laisser partir, car il craignait qu'elle ne revînt pas. Elle tomba alors dans une grande tristesse et ne faisait que pleurer nuit et jour. Le jeune Morgan lui dit un jour « Souris-moi un peu, ma douce, et je te conduirai jusqu'à la maison de ton père. » Mona sourit, et le Morgan, qui était aussi magicien, dit « Pointrail, élève-toi !» Et aussitôt, un beau pont de cristal parut pour aller du fond de la mer jusqu'à la terre. Quand le vieux Morgan vit cela, sentant que son fils
en savait aussi long que lui, en fait de magie, il dit « Je veux aller aussi avec vous ». Ils s'engagèrent tous les trois sur le pont. Mona devant son mari après elle et le vieux Morgan à quelques pas derrière eux. Dès que les deux premiers eurent mis pied à terre, le jeune Morgan dit « Pointrail, abaisse-toi » et le pont redescendit au fond de la mer, entraînant avec lui le vieux Morgan. Le mari de Mona, ne pouvant l'accompagner jusqu'à la maison de ses parents, la laissa aller seule en lui faisant ses recommandations. « Reviens au coucher du soleil, tu me retrouveras ici, t'attendant, mais ne te laisse embrasser ni même prendre par la main par aucun homme. » Mona promit et courut vers la maison de son père. C'était l'heure du dîner et toute la petite famille se trouvait réunie. « Bonjour père et mère, bonjour frères et sœurs, » dit-elle, en entrant précipitamment dans la chaumière. Les bonnes gens la regardèrent ébahis et personne ne la reconnaissait. Elle était si belle, si grande et si parée. Cela lui faisait de la peine et les larmes lui vinrent aux yeux. Puis, elle se mit à faire le tour de la maison, touchant chaque objet de la main en disant « Voici le galet de mer sur lequel je m'asseyais au foyer. Voici le petit lit où je couchais. Voici l'écuelle de bois où je mangeais ma soupe. Là, derrière la porte, je vois le balai de genêt avec lequel je balayais la maison et ici le pichet avec lequel j'allais puiser de l'eau à la fontaine. » En entendant tout cela, ses parents finirent par la reconnaître et l'embrassèrent en pleurant de joie et les voilà tous heureux de se retrouver ensemble. Son mari avait bien recommandé à Mona de se laisser embrasser par aucun homme. Et à partir de ce moment-là, elle perdit complètement le souvenir de son mariage et de son séjour chez les Morgan. Elle resta chez ses parents et bientôt les amoureux ne lui manquèrent point. Mais elle ne les écoutait guère et ne désirait pas se marier. La famille avait comme tous les habitants de l'île un petit coin de terre où l'on mettait des pommes de terre, quelques légumes, un peu d'orge et cela suffisait pour les faire vivre. Avec la contribution journalière prélevée sur la mer, poissons et coquillages, il y avait devant la maison une aire à battre le grain avec une meule de paille d'orge. Souvent, quand Mona était dans son lit la nuit, à travers le mugissement du vent et le bruit sourd des vagues battant les rochers du rivage, il lui avait semblé entendre des gémissements et des plaintes à la porte de l'habitation. Mais persuadée que c'était les pauvres âmes des naufragés qui demandaient des prières aux vivants oubliés, elle récitait quelques De Profundis à leur intention, plaignait les matelots qui étaient en mer, puis elle s'endormait tranquillement. Mais une nuit, elle entendit distinctement ces paroles prononcées par une voix plaintive à fendre l'âme. « Oh Mona, avez-vous donc oublié si vite votre époux, le Morgan, qui vous aime tant et qui vous a sauvé de la mort ?» Vous m'aviez pourtant promis de revenir sans tarder, et vous me faites attendre si longtemps, et vous me rendez si malheureux. Ah, Mona, Mona, ayez pitié de moi et revenez bien vite. » Alors Mona se rappela tout. Elle se leva, sortit et trouva son mari, le Morgan, qui se plaignait et se lamentait de la sorte près de la porte. Elle se jeta dans ses bras, et depuis, on ne l'a pas revue. Et du coup, c'était un petit conte qui nous vient d'une légende, même plutôt, qui nous vient de Bretagne et qui est encore, comme dernièrement, du livre « Contes, récits et légendes des pays de France » rassemblé par Claude Seignol. Voilà, et c'était donc ce conte a été conté par Marie Tual dans l'île d'Ouessant en mars 1873. Voilà. Et vous êtes toujours sur Radio Saint-Taf, donc à Millau au 100.6, à Belmont au 99.9, à Camarès au 92.7 et à Saint-Taf au 96.7. Et vous pouvez également nous retrouver sur Internet. Une excellente journée à toutes et à tous.